VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par les séquelles du cyclone Idai en Afrique australe. Appel à l'aide urgente du ministre mozambicain de l'Environnement, Celso Correa, aux secouristes pour qu'ils portent assistance en priorité à au moins 15 000 personnes qui ont besoin d'être secourues rapidement dans les zones inondées au Mozambique après le passage la semaine dernière du cyclone Idai, qui a déjà fait 217 morts dans le pays. C'est une lutte contre la montre. Chaque minute compte, a prévenu ce jeudi le ministre Correa. Les secours s'organisent difficilement pour venir en aide aux centaines de milliers de sinistrés affectés par le cyclone meurtrier qui a balayé l'Afrique australe. L'ONU a annoncé mercredi le lancement d'un appel de fonds massif aux pays membres pour financer les opérations de secours après les énormes dégâts causés par Idai qui a ravagé 3 pays de la région, le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi. Selon le président mozambicain Philippe Nyusi, le bilan final dans son pays pourrait dépasser de milliers de morts. Et au Zimbabwe voisin, le nombre d'habitants touchés par le cyclone Idai et les inondations atteint désormais les 200 000 dans les régions situées près de la frontière du Mozambique. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'ONU. Afrique centrale maintenant, poursuite de l'agitation anglophone au Cameroun. Au moins 5 personnes ont été enlevées mercredi dans 2 kidnappings signalés dans les 2 régions anglophones du pays, où 80 autres personnes ont été dépouillées le même jour par des séparatistes. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Ces 80 personnes qui voyageaient en bus ont été attaquées par des séparatistes sur la route entre Boya et Kumba dans le sud-ouest. Ces derniers prennent fréquemment des otages sur cet axe en échange de rançons réclamées à leurs familles par transfert mobile. À Boya même, au moins 4 joueurs de l'équipe de football de l'université de la capitale du sud-ouest ont été kidnappés hier matin en pleine séance d'entraînement. Et à Bamenda, chef-lieu du nord-ouest, un ex-secrétaire d'État, Emmanuel Ngafesson, a été enlevé en plein centre ville mercredi matin, a affirmé à l'AFP une autorité locale précisant qu'il n'avait pas été libéré depuis. La veille, l'entraîneur de Sport Academy de Bamenda, Emmanuel Ndoumbé Bosso, un ancien lion indomptable, a lui été libéré après plusieurs heures de captivité, nous signale notre correspondant Emmanuel Jeunentap.
Accord de paix en République centrafricaine. Le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés signataires de cet accord négocié début février à Khartoum au Soudan se sont entendus à Addis Abeba au sujet de la formation de gouvernement inclusif à Bangui. Smaïl Siorgi, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine et principal médiateur lors de cette réunion dans la capitale éthiopienne, n'a pas caché sa satisfaction à la fin des discussions mercredi.
Je voudrais également adresser mes félicitations et tous mes vœux au peuple centrafricain qui demeure la source de l'autorité et aussi la source de toutes les attentes auxquelles doit s'atteler ce gouvernement. Donc nous souhaitons bon courage au gouvernement et nous resterons aux côtés de la Centrafrique.
Smaïl Tchergui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba. La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant. Le Conseil de sécurité de l'ONU se rend cette semaine au Mali et au Burkina Faso afin de se pencher sur la situation préoccupante de la région du Sahel où la menace terroriste ne montre aucun signe d'affaiblissement et cause des déplacements massifs de population. Les explications d'Anne Albertson.
Menée par la France, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, cette visite sera la 4e du Conseil de sécurité au Mali depuis 2014 et la 2e au Burkina Faso. Le Conseil arrivera vendredi à Bamako où il rencontrera des dirigeants maliens, puis se rendra à Ouagadougou dimanche. Selon l'ambassadeur français aux Nations Unies, François Delattre, la visite du Conseil de sécurité doit permettre de renforcer l'information des membres sur le processus de paix au Mali, la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel et la situation du Burkina Faso, particulièrement affectée par la menace sécuritaire. Les puissances mondiales sont divisées sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la menace islamiste au Sahel. La France étant en désaccord avec les États-Unis à propos du financement de la force anti-djihadiste G5 Sahel, dont sont membres le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Cette visite intervient alors que le Conseil de sécurité doit par ailleurs réfléchir à l'avenir de la mission de maintien de la paix au Mali, la MINUSMA. Selon des diplomates, un nouvel affrontement entre la France et les États-Unis se prépare concernant le sort de cette mission, forte de 14 000 membres et mise en place après l'intervention militaire menée par la France en 2013 pour chasser les djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du Mali.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
On reste en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, les gaspillages dans les cérémonies culturelles et traditionnelles telles que les mariages, baptêmes et autres sont très fréquents. Dans un pays où la pauvreté est très présente, c'est des millions qui sont dépensés dans ce genre d'événements. Et la cérémonie la plus adulée est le mariage, nous dit de Dakar notre correspondant Sedina Abagay.
Se marier pour le meilleur et pour le pire, ce célèbre slogan est aujourd'hui galvaudé. Les festivités et les dépenses compulsives relatives aux préparatifs du mariage dénaturent l'aspect solennel de l'union sacrée entre un homme et une femme. Père Raphaël Diop, curé à la paroisse Saint-Joseph de Médina.
L'Église a toujours donné des conseils et invité à la sobriété et à la simplicité quand nous célébrons nos événements, mariage ou autre événement. Le fait de mettre beaucoup d'argent dans ces fêtes, finalement on met plus l'accent sur la fête que le sacrement que nous allons recevoir.
Amoindrir les dépenses pour le christianisme, faire plaisir à sa dulcinée dans la limite du possible pour l'islam, Imam Birom Pouy.
Dans le Coran, même Allah il dit Khintar, ça veut dire c'est plus de 1000 pièces d'or. Actuellement on pourrait même parler de milliards de pièces d'or pour montrer qu'il faut toujours de sa femme. Autant les prophètes, il y avait une personne qui était extrêmement pauvre, n'avait rien. Et le prophète avait déclaré, il faut donner quelque chose à la femme. La personne était tellement pauvre, il n'avait que quelques versets coraniques. Donc pour montrer, il n'y a pas de limite. À partir d'un verset coranique jusqu'à plus de 1000 pièces d'or, donc ça varie.
Le bonheur n'a pas de prix, c'est la devise de Oupa Kadior Mendi. Lors de son mariage, il a dépensé sans compter. Il a mis les petits plats dans les grands.
Je suis marié, disons, en trois étapes. Donc j'ai fait la cérémonie dite traditionnelle. J'ai également fait la cérémonie à la mairie et j'ai fait la cérémonie religieuse à l'église. Donc tout ça cumulé, mes revenus entre 4 et 5 millions, ça en valait la peine, ma femme en vaut la peine. Et après, le prix s'oublie et les bons souvenirs restent également.
Abdoulaye Thiam n'est pas d'accord avec Oupa Mendi.
Les dépenses astronomiques vraiment constituent un frein pour moi. Dans la prise de décision par rapport au mariage, franchement parlant, pour dire vrai, ça constitue un frein. Le plan financier est très important en matière de relations. Notre société a tendance à lui donner de plus en plus d'envergure. Quand on ne se sent pas du tout prêt sur le plan financier, ça constitue un frein dans la prise de décision pour se marier.
Le sociologue Ndiaye Ndoye coupe la poire en deux et accuse les belles familles. Pour elle, les beaux-parents sont à l'origine des dépenses compulsives lors des mariages.
On peut dire que les populations, plus ces populations sont pauvres, plus ils tendent vers des dépenses qui ne s'expliquent pas. C'est une concurrence, c'est une rivalité. Parce que la famille d'un tel a fait ça, je vais
Il est de coutume au Sénégal, lors des mariages, que les époux, en accord avec la belle famille, organisent une grande cérémonie, des dépenses parfois exagérées qui sont qualifiées de gaspillage sont effectuées. Paradoxe, ces mêmes familles vont se plaindre au lendemain du mariage célébré en grande pompe de la cherté de la vie. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, le procès sur le produit Roundup du géant agrochimique Monsanto est toujours au centre des débats à San Francisco en Californie. Yacouba Ouedraogo.
La question n'est pas de savoir si vous aimez Monsanto ou pas, a soutenu l'avocat du groupe hier devant le jury d'un tribunal chargé de déterminer si le géant agrochimique a volontairement caché la dangerosité du désherbant Roundup. Mardi, ce même jury a estimé que le célèbre et controversé produit a contribué au cancer d'un septuagénaire qui a vaporisé du Roundup sur sa propriété pendant plus de 25 ans. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'un jury juge ce produit cancérigène. Cette décision, qui a fait plonger en bourse l'action Bayer, nouveau propriétaire de Monsanto, a ouvert la deuxième phase de ce procès. Désormais, les jurés doivent répondre à deux questions. Est-ce que Monsanto est responsable de l'affection d'Edwin Herdman? Et si oui, quels sont les dommages et intérêts qu'il devrait payer? Bayer fait face à quelque 11 200 procédures similaires rien qu'aux États-Unis. Lors d'un premier procès en août, il a été condamné à verser 289 millions de dollars à un jardinier malade d'un cancer en phase terminale, une somme ensuite réduite par un juge à 78,5 millions de dollars. Le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'OMS, a classé en 2015 le glyphosate comme cancérigène probable, mais pas les agences européennes EFSA, chargées de la sécurité des aliments, et ECHA, qui sont s'occupe du contrôle des produits chimiques.
Merci de votre attention.